بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم، ربي زدنا علما يا كريم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. شيخ la dernière fois, on avait vu le verset de lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit لقد خلقنا الإنسان في كبد, dont la traduction est nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Et nous avons vu à travers les commentaires des différents mufassirines que la vie de l'être humain est remplie de difficultés. Déjà, dès les premiers jours de sa vie en tant qu'être humain, être vivant qui vit sur cette terre, il y a la sortie du ventre de la maman qui est une épreuve terrible, difficile pour l'enfant, comme le médecin le prouve. Il y a les premiers pas que l'enfant va faire, l'adaptation à la vie. Et puis, cet enfant qui va grandir, il va devenir un adolescent, il va devenir adulte. Il y aura les difficultés qu'il y a pour travailler, pour se marier. Il y a toutes les difficultés de la vie qu'un être humain puisse rencontrer par rapport à sa famille, par rapport à son épouse, à ses enfants, à sa santé, etc., etc., sa situation financière, professionnelle. Donc ce dunya n'est pas une vie de tout repos. Il n'y a pas un être humain qui peut dire que moi je mène une vie vraiment idéale, que je n'ai jamais eu de problème, je ne rencontre aucun problème. Ça, ce n'est pas normal. Hein? La sunnette dans la vie de l'être humain, c'est de rencontrer des difficultés. Et les difficultés sont dans la vie du dunya. Et certains commentateurs du Coran disent que lorsqu'Allah Ta'ala parle de kabed, de difficultés, cela englobe également ce qu'il y a après la vie sur cette terre. C'est-à-dire lorsque l'ange de la mort reprend l'âme, lorsque l'homme est posé seul dans la tombe, lorsque les anges posent des questions, lors de la résurrection, la remise des livres, le passage, le considérat, la balance, le mise, etc., etc. Il y a épreuve sur épreuve, difficulté sur difficulté, jusqu'à ce que les gens sur le droit chemin se rendent en mustaqim, accèdent au paradis. Là, c'est fini. Quand le mu'min entre dans le paradis, là, c'est terminé, là, il n'y a plus de taklif, il n'y a plus de difficulté. Voyez. Mais depuis le moment où Allah Ta'ala a créé cet homme, jusqu'à son décès, jusqu'à après sa mort, jusqu'à ce qu'il entre dans sa demeure éternelle, il y a difficulté sur difficulté. Il y a affronté parfois, on avait dit la dernière fois, la méchanceté des gens, il y a la jalousie des gens, il y a les maladies, il y a les difficultés, il y a l'oppression. Bref, tout ça, ça fait partie de ce dunya. Il y a des gens pour qui, il y a des gens que l'Allah utilise pour le mal, dans certains sens, c'est-à-dire, ils font le mal. Allah a donné le choix de faire le bien et faire le mal, ils font le mal. Mais en causant du tort aux gens, Allah descend rahmat sur les opprimés. Moi, je suis quelqu'un d'injuste, je cause du tort aux gens, d'accord, vous me voyez comme un ennemi, comme un tyran, mais par les difficultés que vous allez subir à cause de moi, Allah Ta'ala, il efface vos péchés, il augmente votre daraja, et Allah a pitié pour les personnes opprimées. Et on avait vu la dernière fois, également, que lorsque nous voyons les difficultés qu'il y a de ce dunya, les taklifs, toutes les situations où l'homme est éprouvé, et là, on s'est plutôt focalisé sur la méchanceté des gens, sur la manigance des personnes, alors là on se dit qu'il faut absolument qu'il y ait une résurrection pour qu'il y ait une justice dans l'au-delà. On voit parfois certaines personnes qui agissent très mal, certaines personnes qui pendant des années ils oppriment des gens, ou ce sont des tyrans, ou ils sont à l'origine de la mort de plusieurs personnes, et que dans ce dunya ils n'ont aucun problème. Dans ce dunya, les gens parfois les plus injustes, les plus gros, celui qui va voler un petit truc chez la boutique, lui il sera en prison. Mais celui qui a détourné 20 millions d'euros, qui a fait attribution de marché de manière illégale, c'est-à-dire des grands crimes, des grands vols, des détournements de centaines de milliers de personnes qui paient leurs impôts, tout ça, l'argent là, il a mis dans sa poche, ou pour s'acheter une villa, ou pour s'acheter un truc, et que dans ce dunya, il ne paye pas. On se dit, comment c'est possible? Alors que le jeune du quartier, il a fait une petite bêtise et tout, il est tout de suite condamné. Donc quand on voit l'injustice qu'il y a sur la terre, lorsqu'on voit le vol, l'oppression, la méchanceté des gens, lorsqu'on voit des gens qui sont prêts à aller voir des sorciers pour
pourrir la vie d'une personne, pour rendre la vie d'une personne difficile depuis le jour où les parties vont se sortir jusqu'à la mort de cette personne, ou peut-être il va se séparer de son épouse, ou il va toujours être malade, ou il y aura des difficultés. Quand on voit des cas comme ça, et que les personnes qui sont responsables ne sont pas punies sur la terre, ils font le mal et ils vivent bien. Et vous n'avez rien fait aux gens et vous avez des difficultés. Maintenant, on comprend qu'il est dans la sagesse d'Allah d'avoir fait un tribunal. Et ce n'est pas le tribunal de chanfleurie, ni le tribunal de, je ne sais pas, Bobigny, ou le tribunal de cassation, ou je ne sais quoi et tout. Tout ça, c'est des tribunaux gérés par des êtres humains, avec des faiblesses et un potentiel, avec parfois justice et injustice, avec des intérêts ou sans intérêts. Mais le tribunal d'Allah, là où il y a la justice. Et si moi je fais du tort aux frères, jamais je n'accéderai au paradis, sauf si sur ce dunya il m'a pardonné. Ou alors s'il ne m'a pas pardonné sur ce dunya, si je suis mort sans avoir eu le pardon du frère, jamais je ne mettrai le pied au paradis sans qu'Allah ne règle le compte entre lui et moi. Ça, il faut qu'on comprenne bien. Dans les ibadat, on va, inshallah, se rattacher au verset du Coran, du surat. Dans le hadith, Bassam, il parle de la personne qui néglige la salat. Bassam, il dit que Insha'a azzabahu wa Insha'a ghafarala. Ou alors le contraire. Il dit qu'Allah, soit il le pardonne, soit Allah le punit. C'est-à-dire, pour un même péché accompli, un manquement dans les droits d'Allah, quelqu'un qui ne fait pas sa salat. Je ne fais pas salat, le frère ne fait pas sa salat. Il est possible que Allah il pardonne cette personne entièrement et que moi je sois puni le jour de Qiyamah. Ça, c'est de le droit d'Allah. Allah il connaît ce qu'il y a dans le cœur. Allah il connaît la situation, le contexte, quel était notre niyyah, etc., etc. Donc, Allah Ta'ala, il peut pardonner à grande échelle. Et il le fait à grande échelle pour tout ce qui concerne huquq-Allah, les droits d'Allah, c'est-à-dire les ibadat, les actes d'adoration, le culte. Mais concernant le droit des gens, Allah Ta'ala, il a dit que lui, il ne prime personne et il a interdit aux gens d'être oppresseurs, de faire le dhulm. Ce serait une injustice, na'ud billah, qu'Allah Ta'ala, il pardonne, maintenant, il me doit de l'argent, il ne m'a jamais remboursé. Comment se fait-il qu'Allah le pardonne, il s'en va à Arafat, il fait droit, Allah le pardonne, alors qu'il me doit 2000 euros. Vous comment est-ce que c'est possible? Donc là, ce serait une injustice. Et le prophète a cité ce hadith de Qiyamah qui s'appelle Hadith al-Mabalim. Mabalim, c'est quoi? C'est un endroit, c'est pas un endroit, mais ce sera une étape avant l'accès au paradis où les gens, et ça c'est en dehors des a'mal, de la pesée, ça n'a rien à voir avec la pesée des actions. C'est à un moment donné, Allah Ta'ala appellera l'opprimé et Allah Ta'ala appellera l'oppresseur ou les oppresseurs. Allah Ta'ala appellera l'oppresseur et les opprimés également. Si quelqu'un était chef d'entreprise, il a fait drôle, il n'a pas payé ses employés pendant 2 ans, je ne sais pas, ou il a menti, ou il n'a pas tenu ses promesses, etc. N'importe quelle catégorie de drôle qu'on constate dans ce dunya, si nous n'avons pas eu réparation sur cette terre, on n'a qu'à se dire, ben là-haut, on a un tribunal. Si ce n'est pas ici que j'ai eu justice, là-haut, je serai pleinement satisfait. Parce que lorsqu'Allah Ta'ala, par exemple, il ne m'a pas donné mes 2000 euros, d'accord, 2000 euros, qu'est-ce que j'aurais pu acheter? Pas mal de choses, vous voyez, mais ces choses-là, ils seraient limitées dans le temps. Même si j'achète l'électroménager ou je ne sais quoi, ou j'achète beaucoup de choses, n'importe quoi, manger autre chose, à un moment donné, ces choses sont périssables. Vous voyez, j'ai pas eu mon droit sur ce dunya, mais le jour de Qiyamah, qu'est-ce qui se passe? Allah Ta'ala, il appelle l'oppresseur, l'opprimé, et Allah Ta'ala, vous voyez, le hadith, je l'ai déjà cité au moins 7 fois, Allah subhanahu wa ta'ala prendra Allah Ta'ala prendra les bonnes actions de l'oppresseur et donnera l'opprimé. Alors que le jour de Qiyamah, nous serons à la recherche d'un subhanallah ou d'un sijda, et le papa ira voir son fils, le fils ne donne pas. Le fils ira voir son père, le père ne donnera pas. Le mari ira voir sa femme ne connaît pas son mari. Et ainsi de suite, même si on a des noces de diamant, de vermeil, de merveille, ou de quelque chose sur le métal, même si c'est 6 mois, noces de liège, là aussi, l'homme et la femme ne se connaîtront pas. Personne ne donne une action. Et chaque action a sa valeur. Mithqala, un atome de bonne action, il le voit. Un atome de péché, il le voit. Alors ce jour, Allah Ta'ala donnera les bonnes actions de l'oppresseur à l'opprimé. Il va se retrouver avec des montagnes de bonnes actions parce que lui m'a fait du tort et cela n'a pas été réparé sur le dunya. Alors là-haut, on sera tellement heureux que j'ai été opprimé, mais regardez ce que j'ai maintenant. Vous voyez? Et si les bonnes actions ne sont pas suffisantes, Allah il prendra les péchés du mavloum, les péchés de l'opprimé, et Allah Ta'ala mettra dans le livre de compte de l'oppresseur. On avait des grands gounas sur nos épaules, on devait passer devant le tribunal d'Allah à cause de ça, et Allah nous soulage de ça, il lui donne à l'oppresseur, parce qu'il nous a fait du tort, et il nous a pas fait. Vous voyez comment Allah Ta'ala est juste? Comment lorsqu'on nous dit qu'il n'est pas normal, injuste, tout ça, il est injuste dans ce dunya. Mais ce dunya c'est quoi, 60 ans, 70 ans? Et dans Akhirat, lorsqu'Allah fera justice, ben nous serons pleinement satisfaits. C'est exactement comme une personne qui demande droit, il demande, Allah ne l'a jamais donné. Il demande, oh Allah, je veux être président, je veux être, avoir un poste dans telle entreprise, il ne gagne pas. Oh Allah, mais bon, Maïk, tu fais là, et Maïk, il ne gagne pas. Oh Allah, mais veux gagner le tour comme ça, il ne gagne pas. Mais veux ça, mais ça, on n'a rien. À mon esprit, mais tout ça doit là, Allah n'accepte pas. Ça, c'est la phrase qui tue. Quand quelqu'un dit, da'outu falal mustajabli, Allah n'accepte plus. Quand il dit que j'ai demandé, mais Allah ne donne pas, là, Allah ne donne plus. Tout ce temps-là, Allah ne t'a pas concrétisé ta requête. Mais Allah, il te garde ces doigts-là comme iddihar, comme une provision de l'akhirat. C'est-à-dire que parfois, on demande droit, Allah ne nous donne pas ce qu'on veut exactement. Tout le temps, je donne cet exemple. Hein, quand on voit publicité, BMW X6, intérieur cuir, beige, boîte de tout ça. Allah, je veux BMW X6, d'accord? Demande, il gagne. Ouais. Ça, c'est un exemple. Parfois, Allah ne concrétise pas la demande précise, mais Allah, qui ne laisse c'est pas, ça ne veut pas dire que le doigt, il part, se donne vide, comme il dit. Non, c'est qu'Allah, Ta'ala, il prend ce doigt est pris et transformé en un quota de thawab qui est réservé à cette personne de la akhirah. Et le hadith authentique, il dit que la personne va voir des montagnes de bonnes actions qu'il ne reconnaîtra pas. Il dira, oh Allah, là il sera plus royaliste que le roi, il sera l'homme honnête. C'est pas à moi ces bonnes actions. Ces actions, je ne les ai pas accomplies. Allah Ta'ala lui dira que ça, c'est les doigts que tu as demandé sur ce dunya. En ce sens, je ne t'ai pas accordé. Et en échange, je t'ai gardé ces doigts en récompense, en thawab. Et là, regardez, comme le mazloum, il sera heureux. Là, la personne dont les doigts n'ont pas été acceptés, il aura cette envie. Si seulement, sur ce dunya, aucun de mes doigts n'avait été accepté. Pour les retrouver tous en termes de sawab, en quantité de sawab, je vais te dire, pour peser dans ma balance, pour me faire accéder au paradis sans rendre compte, et pour me faire accéder au plus haut degré du paradis. Cela, c'est la hikmah d'Allah. Dans le dunya, on trouve beaucoup de choses difficiles. On n'a pas ce qu'on veut, et on est indigné du comportement des gens. Mais ne vous inquiétez pas. Allah ne dort pas. La ta'khudh sinatun wa la nawm. Et Allah, il n'oublie jamais. Allah n'oublie jamais. Un mal qui a été fait sera obligatoirement réparé, soit de ce dunya, soit de l'akhirah. C'est pour ça qu'il ne faut pas, parfois là, il ne faut pas maudire les gens. Ah, fais-moi ça, Allah va punir, ou va détruire, ou va mordre, va créer, ou va gagner, conseil, ou va gagner. Non, ça ne sert à rien. Ça sert à quoi que devant vous, votre ennemi, il est malade, il meurt? Ça sert à quoi? Ça vous apporte quelque chose, votre argent revient, votre dignité revient? Non. Dites, ce n'est pas grave, de l'akhirah, Allah il nous donne. C'est pour ça que le musulman, il est toujours. Il a toujours la quiétude, la tranquillité du cœur. N'importe quelle situation de un, c'est takdir, Allah a décidé. Même si le président, le ministre, le sénat, ils s'unissaient pour m'apporter cette chose, ils ne pourront pas. Parce qu'Allah ne l'a pas décidé. Et c'est quelque chose, j'ai eu un problème, même si l'ONU, Jan Tichan, comment s'appelle le secrétaire de l'ONU, même qui monte, ça ne sert pas à rien là. Même si lui aussi, il veut écarter, ben oui, il dit ça à un pays, il dit qu'il ne faut pas faire ça, il dit personne ne nous donne des ordres. Ça ne sert pas à rien. Si lui aussi dit qu'on va tout faire pour que tel mal ne touche pas monsieur un tel, mais si l'ONU, tous les organismes au monde, ils essayent de faire ça, si Allah décide que ce mal vous touche, il vous touche. Donc le musulman, dans son cœur, il connaît le problème. Moi, je sors de masjid, je vais au rond-point, hein, subhanallah, quelqu'un brûle la priorité, il accroche ma voiture. Il dit, ah, mon auto, la priorité, ça, Alif, ma petite cause est triste 5 minutes après namaz, mais tes causes, mes crimes, n'auraient fini pas avant, imbécile, là, il te passe. Non! C'était manqué comme ça. Allah avait écrit qu'on va parler avec cette personne 5 minutes et quand on passe au rond-point, patache, on tombe avec le bouc et il écrase tout. Takdir. Donc on n'a pas dit si seulement. Ah, il fallait. Oh, je n'aurais pas dû. Ça, c'est kafir. Ça. Le kafir, pour lui, pourquoi aucun malheur? Pourquoi moi? Ah, vendredi 13 millions, il faut jouer et tout, peut-être. Non, nous, on n'a pas tout ça. Ce qui est manqué, c'est manqué. Ce qui n'était pas manqué, n'était pas manqué et on ne peut pas changer le takdir. Sauf avec les deux. Vous voyez? C'est pour ça. Le musulman, de tout ce qui lui arrive, il est content, tranquille, keep cool, no problemo, d'accord? Ou la ferme du mal, inquiète pas. Un jour, il appelle, c'est pas un jour, il appelle demain, un jour, il appelle là-haut. Un jour, il appelle Mashab, et là-haut, on va voir qui sont les amis, qui sont les ennemis. Vous voyez? Après, il faut avoir le cœur propre. Il ne faut pas se dire que. Non, dire Allah fait l'imam, je le pardonne. Et là, les récompenses seront encore plus grandes. Vous voyez, ça, c'est pas possible. Hein, surtout dans la situation actuelle, c'est parfois difficile. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Donc, ça, on a récapitulé un peu ce qu'on a vu la dernière fois. Donc, Allah dit le Coran, ayahsabu an lan yaqdira alayhi ahad. Donc, traduction littérale, c'est il dit, non, pense-t-il que personne ne pourra rien contre lui? Alors, on situe le contexte vers le sourate révélé à Makkah. Alors, certains mufassirin, ils sont d'avis que ce verset est spécifique aux ennemis de l'islam à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il faisait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait du mal aux musulmans. Et Allah t'a dit, c'est comme si qu'ils ont l'impression que personne ne pourra rien contre eux. Alors qu'Allah Ta'ala, il est entièrement capable de détruire du premier jusqu'au dernier de ces personnes qui faisaient du tort à son Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Donc, première opinion, certains ulama disent que Allah Ta'ala met en garde. Ça, c'était pour les personnes qui opprimaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans dans les premiers jours de l'islam à Makkatul Mukarrama, lorsqu'ils faisaient du tort. Il dit, est-ce qu'ils croient que personne ne pourra rien contre eux? Effectivement, intérieurement, ils croyaient être les chefs, les ulama, les chefs de tribu, les protégés, que personne ne peut rien, c'est nous qui décidons, on fait ça, on fait ça. Voyez? Alors la question qu'on peut se poser maintenant, voyez? Qui a fait plus de tort aux musulmans dans l'histoire de l'islam? À quelle époque les musulmans ont été le plus oppressés? Est-ce que c'est tel qu'aujourd'hui, pratiquer sa religion, c'est devenu difficile? Il n'y a pas besoin de commenter. Nous savons tous qu'est-ce que nous vivons, les difficultés à affirmer sa religion, etc., etc., les tenues vestimentaires, comment ça peut poser problème pour nos femmes, et tout, etc. La question qu'on se pose, beaucoup de gens disent que de nos jours, il n'y a plus. Beaucoup de gens disent qu'à l'époque, il était gay, mais de nos jours, on ne peut plus mettre la sunnah en pratique. De nos jours, il faut s'adapter. On ne peut pas vivre vraiment comme un musulman, comme le Coran et le Hadith dit. Le contexte n'est pas pareil. Aujourd'hui, vivre sa religion, ce n'est pas facile. C'est vrai qu'à la fin des temps, sera Dieu de pratiquer le dîme. Mais je vous pose juste une question. Tout a dit que oui, les gens, les ennemis de l'islam, les gens qui veulent du tort aux musulmans. Question. À quelle époque les musulmans ont plus souffert de leurs ennemis? Est-ce que c'est au 21e siècle là? Ou alors l'époque du Prophète sallam? Est-ce que Hazrat Bilal, il souffrait plus que nous, bien c'est nous qui souffrons plus que lui? La question ne se pose même pas. Est-ce qu'il y a une femme musulmane qui a souffert à notre époque, hein, comme Soumaïa, qui vous l'avez attaché chaque pied avec un cheval et qui a été écartelée, la première femme à mourir dans le chemin d'Allah pour garder son iman? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a souffert comme Suhaib al-Rumi? Est-ce que quelqu'un qui a souffert comme la famille de Ali Yassir? Jamais, de jamais, on ne pourra dire que de nos jours, il y a beaucoup plus de vols sur les musulmans qu'avant. Non, avant c'était plus dur et ils restaient encore plus fermes sur le dîme. Regardez Bilal, on lit cette histoire, on lit comme une anecdote, mais Bilal, l'oppression atteint le degré maximum à la limite de le tuer, et il reste sur le tawhid, ahad, ahad. Et nous, aujourd'hui, il n'y a pas une personne qui nous touche du doigt. Quelqu'un, il vous insulte, sales arabes ou sales musulmans, vous pouvez aller porter plainte. Quelqu'un, il vous frappe, vous pouvez lui faire un procès. Personne ne vous a frappé, personne ne vous a insulté, mais pourtant, on dit qu'on ne peut plus pratiquer notre dîme. Alors que Al-Bilal avait une pierre sur sa poitrine, sur le sable chaud, et il restait ferme dans le dîme, et il disait, dans la figure des gens, ahad. Abou Bakr, comment il était persécuté, tellement on l'a frappé que tous ses cheveux étaient, c'est comme si ses cheveux étaient bouffés, alors il venait de faire ses tresses, c'était quand il a invité les gens vers l'islam. Comment Suhaib, Ali, Yassir, Soumaïa, ils ont souffert, mais ils sont restés dans le calme du tawhid, ils sont restés fermes dans la pratique de leur dîme. Il y avait 2000 fois plus de difficultés, mais ils sont restés unis et fermes dans la religion. Et de nos jours, personne ne nous a frappés, personne ne nous a insultés, il y a juste des bruits qui courent, il y a juste une pression, il y a beaucoup plus de fitna. Mais fitna, c'est une question de regard, une question de taqwa et tout. Mais là, pourtant, on dit qu'on ne peut plus pratiquer notre religion à notre époque, c'est plus possible qu'une femme se voile. Je ne parle pas de la loi, mais quand un père dit que je ne peux pas dire mon fils, Machal, pour aller dans le chemin, on a vu dans quel ahwal nous vivons. Il n'est plus comme à l'époque de Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, là. Il a dit, ou alors quand on va à l'Umran, il va mettre son châle pendant ses jours à Makkah, Madina. Mais ici, où voit-il lui mettre châle pour aller acheter le pain ou pour aller faire les poissons à ce moment? Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Personne n'a le droit de vous dire quoi que ce soit. Personne n'a le droit de vous... Je ne parle pas de l'école. Là. Personne n'a le droit de vous insulter ou de vous frapper. Vous le faites un procès direct. Où est la difficulté? C'est nous-mêmes. C'est notre iman qui est faible. Alors ne mettons pas la responsabilité sur les gens. Les gens ne nous ont rien fait. Les gens ne nous ont pas agressés. Les Sahaba étaient agressés, mais ils restaient fermes sur leur dîme. Maintenant, regardez les différences. Quand eux, ils ont dit, radiallahu anhu wa radu anhu, on comprend pourquoi. Et puis, quand on voit que Allah a mis en garde que c'est-à-dire qu'Allah, il peut les terrasser quand il veut. Allah est au-dessus d'eux. C'est comme le peuple de Aad, lorsqu'il disait, فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. Le peuple de Aad, qui avait une force exceptionnelle, ils ont agi avec orgueil, et ils ont dit, qui est plus fort que nous? Parce qu'à un moment donné, l'être humain, quand il a la force, quand il a la richesse, quand il a le pouvoir, c'est comme il dit, en tout cas, ils sont pulis, là. C'est comme si son pied touche plus à terre. Il a l'impression qu'il est capable de tout. Il est comme Matrix, là, il peut sauter. Il a l'impression qu'il est super puissant. Voilà Matrix, voilà, je ne sais pas, mais n'importe quelle affaire. Le Seigneur a fait ma fille de l'avion une fois, etc. Tout ça, elle revient à mon esprit. Voyez? Donc, il a l'impression qu'il est super puissant. Personne ne peut rien. Et ça, c'est dans la nature de l'être humain. Quand quelqu'un, il a tout, quand il est en bonne santé, quand il est riche, il est célèbre, il a le pouvoir, il est craint des gens, il est chef d'entreprise. J'aime bien les blancs, hein, mais excusez-moi. Mais en général, les gens, quand, plus ils montent, plus ils sont à moi, qui touche à moi? Qui fait à moi l'affaire? Et qu'il est respecté, il est craint, il a l'impression presque d'être un dieu. Il a presque l'impression que personne ne peut m'arrêter. Moi, je suis une machine, moi, je fonce, moi, je suis un caïd. Voyez? Il suffit qu'Allah l'éprouve par une maladie, un problème de santé que personne ne trouve pas la solution. Voilà, son règne est fini. C'est comme un château de cartes. Vous allez enlever, vous n'allez pas enlever beaucoup. Hein? Il y a 2000 cartes, là, 2000. Enlève une carte. Une carte, tout s'écroule. Il ne peut plus rien faire. Ça, c'est la nature de l'être humain. Lorsqu'il a trop de choses, lorsqu'il a tous les bienfaits en même temps, il a l'impression qu'il devient invincible. Et à la réponse du peuple d'Aad, qu'est-ce qu'Allah dit? أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. Est-ce qu'ils se sont, ils n'ont pas vu que Allah, celui qui les a créés, c'est lui qui a plus, qui est plus qawi, qui est plus fort qu'eux. Et on a vu qu'on sait comment Allah a terrassé le peuple de Aad. Voyez? Donc, quand Allah manda le Quraysh, comme on a vu, si ces gens qui ont fait autant de tort aux musulmans, comme jamais les musulmans n'ont été opprimés, Allah était capable soit de les guider, soit de les terrasser. Mais ils n'ont jamais eu le dessus. Il y a eu la conquête de Makkah. Donc ceux qui ont fait du tort, il y en a comme Abu Sufyan qui se sont convertis. Et ceux qui sont restés dans le coup, Allah les a déshonorés, ils sont partis. Ou alors certains ont été tués dans Badr ou Uhud et des autres batailles. Mais personne n'a eu le dessus sur les musulmans. Allah a envoyé sa nusrat. Même si c'est sur long terme, Allah les a aidés. Mais ce même Allah qui a aidé les musulmans dans ces difficultés, dans les situations difficiles comme à l'époque du Prophète sallam, est-ce que ce Rabb n'est pas capable de nous aider dans nos petites difficultés que nous avons? Si nous avons des problèmes pratiques dans notre religion, s'il y a vraiment des gens qui veulent du tort à l'islam, et que malgré ça nous restons fermes de notre pratique, vous ne pensez pas qu'Allah Ta'ala nous donnera le dessus? Vous ne pensez pas s'il y a quelqu'un qui veut? Il y a peut-être des gens qui aimeraient que les musulmans quittent leur religion, ils font tout pour ça. Vous ne pensez pas qu'Allah Ta'ala un jour fera justice contre ces gens? Si ce n'est pas ici, c'est dans le-delà. Voyez? Donc on comprend bien, ce Rabb qui a été capable de donner Nusrat au prophète sur ses ennemis qui ont fait beaucoup d'oppression, Allah est capable de donner Nusrat à n'importe quel musulman, n'importe quelle époque, pour quelqu'un qui lui veut du tort par rapport à son iman. Voyez? Et si Allah est avec nous, personne ne peut nous causer du tort. Voyez? Et puis, en commentaire également, il dit أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. Dernier point, Tayyib. Il dit que, on a cet exemple également de le hadith de Banu Israël. C'est un hadith qu'on connaît, on va le juste citer rapidement. Il y avait une personne qui était chauve, un qui avait des problèmes de peau et un qui était aveugle. Et puis Allah Ta'ala leur a donné la santé, Allah Ta'ala leur a donné des biens. Tayyib, il y a un qui avait un troupeau de bœuf, de bœuf, un de chameau et un de mouton, si je ne me trompe pas. Et puis Allah Ta'ala a voulu éprouver ces gens pour voir est-ce qu'ils reconnaissent que c'est Allah qui m'a donné la santé et c'est Allah qui m'a donné la richesse alors qu'avant j'étais pauvre et malade. Et c'est le même schéma qu'on retrouve n'importe quand, n'importe quelle époque. Quand on n'a pas et qu'on a eu quelque chose, on a l'impression que ça c'est mon intelligence, c'est mes diplômes, c'est mes efforts. Ça m'a transpiré la case là, là. Ça m'a transpiré, ça pour construire ça là. Si Allah n'avait pas de la santé, on aurait pu travailler, transpirer pour gagner mon takas là. tout, qu'on comprenne que tout ce qu'on a comme bienfait, même si apparemment c'est nous-mêmes qui les ont fait, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors lorsqu'Allah ta'ala voulait les éprouver, Allah envoyait un pauvre auprès de chacun de ces trois personnes. Le lépreux, hein, la personne dit que voilà, je suis pauvre, donne-moi un peu de tes biens qu'Allah t'a donné. Elle dit que non, ça j'ai gagné, c'est moi qui ai gagné, ça dégage. Il ne donne pas. Allah ta'ala a repris les biens et Allah ta'ala lui a repris sa santé. Lépreux, c'était aveugle. Le chauve, pareil, même réaction. C'est moi qui ai gagné ça, dégage. On n'a qu'à travailler dans ce sens. Allah a repris les biens et Allah a repris la santé. Ça, c'est quand on ne reconnaît pas que les ni'amat viennent d'Allah. Allah, il peut reprendre, il peut nous donner une leçon. Tandis que l'aveugle, il a dit qu'effectivement, je n'avais rien, en ce sens, Allah m'a tout donné, et là, il a fait don des sadaqas. Ça, c'était la personne qui a réussi l'épreuve de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, les ulama disent que, en général, ça, c'est la réaction du kafir, qui, lorsqu'il a tout, il a l'impression qu'il est invincible. Alors que le musulman, lorsqu'il a tout, ça ne veut pas dire que quand on a tout, on est en danger, on est pris du coup. Non. Un homme peut être en bonne santé, avoir tous les ni'amat, mais pas pour autant sa vie est en danger. Trois réactions. Quand on a tous les bienfaits de la part d'Allah, le musulman, il pense à Allah, fis saha et wal raha. Quand tout va bien, quand tout va mal, on se retourne vers Allah. Ça, c'est normal. On demande à Allah, aidez-nous, envoyez la nusrat. Il y a dette, Allah aide-nous, il y a maladie, Allah donne la santé. Mais quand on est heureux, là aussi, on pense à Allah. Quand on est content, qu'on a tout, là on lève les mains, on fait tahajjud, on fait qiyam al-layl, on fait rakat nafil pour remercier Allah de nous avoir donné les ni'amas. Ça c'est la première réaction. La deuxième réaction, le musulman lorsqu'il a des bienfaits, jamais, il a le droit de se dire que c'est moi qui ai eu ça. C'est mon travail, c'est mes efforts, ou c'est mon diplôme, ou c'est mon héritage, mes parents ont travaillé dans la main. Toujours comprendre que si j'ai tel bienfait, cela vient directement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième chose, hein, le musulman, lorsqu'il a tout, il sait que remercier Allah, ashukr, être reconnaissant, la gratitude, c'est une condition pour qu'Allah, il garde ses bienfaits et il vous en donne plus. Qu'Allah dit, le Coran, l'aïn shakartum la, la azidan. Allah donne le Coran dans ce sens, si vous remerciez, Allah il donne plus. Tandis que si on fait koufran, on fait ingratitude, son azab il est terrible. Voyez? Donc on sait que lorsque Allah nous donne, il faut toujours remercier Allah. Les ni'amad resteront et Allah nous en donnera encore plus. Et quand est-ce que c'est grave? C'est que quand on a des bienfaits, écoutez bien, ça c'est un peu complexe. Quand on a des bienfaits et qu'on ne remercie pas Allah, et qu'on passe notre vie dans les péchés, mais malgré ça, Allah, il nous donne. Alors là, c'est dangereux. Là, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que Allah, il est en train de vous donner pour mieux vous enfoncer. Allah, il donne pour mieux enfoncer la personne. Que la personne, il est entièrement dedans, il ne comprend plus rien. Il a des dunyas, il a des bienfaits. Et puis lorsqu'Allah, il le prend, c'est barta. Allah, il le prend subitement. Il y en a un verset, ça, sur... Le verset ne vient pas à l'esprit. Quand Allah veut un peuple telle chose, Allah il donne, et puis lorsqu'Allah il prend directement. Donc quand on fait des péchés, et qu'on a tout, on fait des péchés, on remercie pas Allah, et qu'Allah continue à donner, parfois Shaitan dit, mais qu'est-ce qu'on a tout, pourquoi vous allez demander droit, on a déjà, vous allez demander en plus. Ça, Allah il est en train de vous éprouver par les richesses. La pauvreté peut être une épreuve, la richesse également peut être une épreuve qui peut détourner la personne du droit chemin. Oui, on est là. 28 minutes. Pas 2 minutes ? Pas 2 minutes. Donc ça c'est « Ayahsabu alla yakdir alayhi ahad yakoulu ahlaktu mal al-lubada » et cette personne il dit que j'ai gaspillé beaucoup de biens. Alors le commentaire de ce verset, j'ai cherché dans au moins 4-5 livres, il n'y a pas eu vraiment quelque chose de très explicite. Ça se commente en deux mots, deux phrases. Il dit que cette personne, il dit que j'ai dépensé beaucoup d'argent. Et il dit que Allah Ta'ala utilise le terme « ahlaktu ». Ihlab, c'est détruire. Allah Ta'ala ne dit pas anfaqtu ma la nubada. Je n'ai pas dépensé mes biens et tout. Hein? Et dans certains commentaires, il dit que ces personnes disent qu'ils ont dépensé dans le but de faire du tort aux musulmans. Donc ça, c'était plutôt dans le contexte de la révélation. Allah Ta'ala, il parle de ces gens qui dépensent leurs biens à tort et à travers dans tout ce qu'ils veulent pour satisfaire leurs besoins. Allah Ta'ala utilise le terme ihlak, détruire. Les Mufassirs disent ça, ça subhanallah, c'est le tafsir al-Sa'di. Ni Ibn Kathir, ni al-Razi, ni al-Qurtubi, ils n'ont pas mis ça, c'est vraiment subhanallah, chacun a une compréhension des textes. Il dit que Allah Ta'ala utilise le mot ihlak, détruire, pour qu'on comprenne bien que lorsque quelqu'un dépense ses biens dans les jouissances, dans tout ce qu'il veut, dans les péchés, ça c'est une destruction. Ce n'est pas des biens dépensés, c'est des biens détruits. Parce que cela ne lui sera jamais profitable. Même si nous voyons que la personne est en train de jouir de ses bienfaits, mais jamais cette personne, même si elle est en train de profiter, mais c'est un plaisir qui est momentané. Et tout ce qui viendra après, dans ce dunya, même c'est difficile, et dans le akhirat, c'est pire encore. Il y a déjà des exemples, plein d'exemples, combien de footballeurs, je ne dirais pas son nom, un Argentin, un très court, à cause d'être comme le meilleur au monde. C'était le meilleur footballeur au monde, le plus riche, adulé, joué dans des grands clubs, il jouait à Naples, avec tout, Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Coupe des tout. Mais pourquoi il se met à consommer de la drogue? C'est quoi son problème? Il a des milliards à l'époque des francs, ou en dollars, il était milliardaire. Pourquoi il a besoin de toucher à la marijuana? Pourquoi? C'est quoi le problème? C'est qu'il a tout, il peut avoir autant de femmes qu'il veut. Il a tout l'argent qu'il veut, il peut s'amuser, il peut acheter un yacht, il peut manger du foie gras ou du langouste, boire du champagne, faire tout ce qu'il veut, tout ce que les gens de l'Union aiment. Il peut vivre une vie de roi. Il a plus d'argent qu'un président de République ou un je ne sais pas quoi. Mais pourquoi il va toucher à la drogue? Parce qu'intérieurement, il y a un manque. Il a dépensé, il a des plaisirs, mais les plaisirs ne vont jamais satisfaire le cœur entier. Autre exemple, une femme, chanteuse très connue, elle a depuis 17 ans, 18 ans, devenue les chanteuses à mieux payer, je ne sais pas, le plus célèbre, tellement jeune. Tout d'un coup, son coco est bloqué, devant Internet, devant la caméra, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, elle se rase à terre. Prenez ça. Voyez, c'est quoi son problème? Elle touche la drogue, etc. Et dans des cas d'artistes, de footballeurs, de chanteurs, de je ne sais quoi, des gens riches, immensément riches, et ils se suicident, ou alors ils touchent à la drogue, parce que autant que vous avez, sachez que ça n'apporte pas de quiétude de l'autre. Sinon, les hommes les plus riches au monde seraient les plus heureux au monde. Ou bien le contraire, les gens les plus riches au monde, ce sont ceux qui dorment le moins tranquillement. Ce sont ceux qui dorment le moins. Voyez ? Donc, ces gens-là disent que ahlak tout, c'est-à-dire que ça, c'est un bien. Allah veut dire que c'est un bien qui ne reviendra jamais. Je pense qu'on va s'arrêter là. On a 31 minutes. Parce que ce qui vient après, c'est ensemble. Ces trois versets doivent être commentés ensemble. Allez, bon, ayah sawal la miyarahu ahad, on aurait pu le faire, mais on va laisser ça. Après, il y a Alam Najalahu Aïnein, Walisan et Washafatein, Wahadeinahu Najdein. Trois ni'amat qu'Allah Ta'ala cite, ça on gardera pour la prochaine fois. Juste ce petit verset, Lorsqu'Allah dit, Ayahsabu Allam Yarahu Ahad, pense-t-il que nul l'a vu? Et nous savons bien que lorsqu'une personne accomplit une action bonne comme mauvaise, il y a cinq shahids, il y a cinq témoins. Premièrement, au-dessus de tous, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala qui voit les actions. Deuxièmement, c'est les anges. Kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun, dans notre verset, subhanallah. Il y a un autre verset qui dit qu'ils sont là, assis, qu'ils inscrivent tout. Bref, les anges qui inscrivent bonne action comme péché. Ça, c'est deux. Troisièmement, il y a les tawaif. Il y a les groupes d'anges qui se relaient matin et soir et qui rapportent à Allah les actions. Ça, c'est matin et soir. Yata'aqabuna fikum mala'ikatun min layli wa nahar, en ce sens. Ça, c'est les troisièmes témoins. Quatrième témoin, c'est la terre. La terre, l'endroit où on accomplit le péché, cet endroit, ce lopin de terre, ce mètre carré de terre, il le retient, et le jour de Qiyamah, il le dira. Et ça rejoint un verset de Ida Juzadir, wa akhrajatil ardu asqalaha. Si je ne me trompe pas, c'était ça. Que la terre, il livra ses trésors, c'est-à-dire qu'ils vont dire tout ce qui a été fait. Et enfin, cinquième témoin, c'est quoi? C'est le livret de compte où les actions sont écrites, et le jour de Qiyamah sont présentes. Donc celui qui fait du tort, il croit que personne ne le voit, là ou Allah. Allah, il voit tout ce que l'homme peut faire comme bonne ou mauvaise action. Qu'Allah Ta'ala fasse rentrer cette haqiqat, la réalité de la taqwa d'Allah dans nos cœurs, que lorsque nous vivons, nous faisons n'importe quelle action, nous avons toujours conscience qu'il y a cinq témoins au-dessus de tous, Allah, et ensuite les créatures qu'Allah a mis pour surveiller, pour rapporter ce que l'homme fait, et qu'Allah nous fasse comprendre aussi que dans les biens de ce monde, il n'y a pas de succès, et qu'Allah nous fasse comprendre également que, comme les Sahaba, ils ont eu des difficultés, nous, on n'en a pas eu un poison, mais les Sahaba, ils sont restés fermes de leur dîn, et qu'Allah nous donne la fermeté et l'istiqamah dans la pratique de notre religion. Wa ma tawfiq illa billah, subhanahu wa ta'ala, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.